Toujours un plaisir d'accueillir ma belle Josée Laforêt. Bonjour Josée.
Bonjour Jocelyne.
Josée, la dernière fois lors de ta visite carte blanche, tu nous as parlé du rôle du chef d'orchestre, un métier tout à fait fascinant. Aujourd'hui, tu vas rester un petit peu dans le même sujet, sauf que tu vas nous parler de l'évolution de ce rôle à travers le temps.
Oui, effectivement. Comme on connaît le chef d'orchestre habillé en noir et blanc devant un ensemble de musiciens, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Si on regarde l'histoire de la musique, si on reporte à l'époque de la Renaissance, ben la musique, c'était différent. Hein? C'était il n'y avait pas de chef comme tel, mais on appelait ça un meneur. C'était okay. Une personne peut-être qui menait un peu les musiciens avec sa main, mais il n'y avait pas de geste, il n'y avait pas il n'y avait pas rien d'instauré encore. C'était pas non plus un besoin parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation à cette époque. Ou c'était un maître de chapelle qui menait un peu le chant là, avec sa main, un peu comme le fait un animateur lors d'une célébration à l'église. Et à l'époque baroque, ben ça c'est différent. C'est sûr que l'évolution des époques de la musique a été aussi avec l'évolution des instruments et l'évolution de la partition musicale. Donc à l'époque baroque, on pense à Vivaldi, Bach, Handel. C'est des petits ensembles, c'est des orchestres de chambre. Donc il y avait peu de musiciens et c'était souvent le premier musicien. Le premier violoniste qui devenait le chef, les gens faisaient que le regarder et okay. Il donnait justement les indications de départ, de retard et d'arrêt, tout ça. Et la musique gardait le même tempo tout au long de la pièce. Donc, on n'avait pas vraiment besoin d'un chef pour cette époque-là. C'était le concertmaster, le premier violoniste, ou bien celui qui jouait du clavecin, qui était placé au centre de l'ensemble, qui était comme on appelait, qui jouait de la basse continue. Donc, c'était un peu lui qui était le maître d'œuvre.
Okay.
Et ensuite, on a eu l'époque classique. Ça, on parle du 18e siècle, dans les années 1750 jusqu'à 1820. Ça, c'est l'époque de Haydn, Mozart, des belles symphonies. C'est la naissance de la symphonie. Et de l'orchestre symphonique, comme on la connaît aujourd'hui, avec les trois familles de cordes, vent et percussions. Et c'est sûr que, encore une fois, c'était plus le concertmaster, parce que la musique variait pas beaucoup de tempo, et ça commençait tranquillement. Là. Et ensuite, à l'époque romantique, ben là, on parle de Beethoven. Là. Beethoven a chevauché les deux époques classiques et romantiques. Et lui, dans sa partition musicale, c'est un peu l'éclatement là, de la forme de la musique et il y a des contrastes, il y a des ruptures et puis la musique devient vraiment expressive. Donc là est née la nécessité d'un chef. Donc c'est juste à partir des années 1820 qu'on a eu besoin d'un chef d'orchestre devant les musiciens parce qu'il y avait trop d'indications de liberté, de retard, d'accélérendo, de rubato, c'est-à-dire de prendre la liberté dans le tempo, tout ça. Donc, c'est à cette époque-là, comme on connaît les symphonies de Beethoven, qu'il fallait vraiment un chef pour mettre tout ça ensemble, sinon c'était vraiment le chaos. Et l'orchestre a pris une expansion dans l'époque romantique. On n'a qu'à penser à l'extrême. Là, on part d'orchestre de chambre dans les époques baroques classiques. Et l'époque romantique, là, on s'est rendu jusqu'à 1000 musiciens. Avec la symphonie des mille de Mahler.
Donc, oh là là.
Il y a eu une grande, grande expansion dans les partitions de musique. Donc, c'est là que le chef d'orchestre était utile et indispensable pour mettre tout ça ensemble.
Ça veut dire, Josée, que toutes les œuvres qui ont précédé ça, si vous les jouez aujourd'hui, elles sont vraiment très différentes.
Oui.
Toutes les œuvres de l'époque baroque, etc., maintenant avec un chef d'orchestre, ça peut être complètement différent de ce qui a été proposé à l'époque.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que là maintenant, on va mettre un chef devant l'ensemble ou à moins qu'on la performe de façon plus authentique.
De la même façon.
Oui, c'est ça.
OK.
Mais si on met un chef devant un petit orchestre qui fait une symphonie de, je sais pas moi, de Mozart, tout ça, ben il va rajouter sa touche personnelle un peu. On va comme un peu la rendre plus moderne, l'actualiser. Mais on a toujours un souci de la rendre quand même dans son authentique là, dans le temps. Il y a aussi soit qu'on l'interprète avec nos instruments d'aujourd'hui ou les instruments de l'époque, mm-hmm. peut être très puriste ou bien adapté un petit peu à notre modernité. Donc, quand un chef est en avant, il y a un côté subjectif et un côté objectif. C'est-à-dire qu'il doit rendre la partition. Il est un peu l'intermédiaire entre le compositeur et le public. Mais il y a un côté subjectif, c'est-à-dire qu'il y met sa touche personnelle. C'est là qui est intéressant, c'est que chaque chef a son goût, hein, son goût personnel pour les tempos, pour plein d'articulations, pour son phrasé. Donc, c'est pour ça qu'un ensemble, quand un ensemble, puis tu changes de chef d'orchestre, on n'a qu'à penser à l'OSM quand c'était M. Dutoit, oui. Et ensuite M. Nagano, l'orchestre sonne pas pareil. Okay. Juste par sa stature, par sa gestuelle, on va chercher une autre sonorité. Et ses goûts personnels selon ses demandes extra-partition. Donc, il y a le côté humain très, très personnalisé qui est important. Puis, je pense que les gens vont au concert souvent pour écouter l'orchestre, mais aussi pour voir le chef, parce que c'est tout un travail. Et le chef, avec sa gestuelle, il met comme en mouvement le côté sonore. Donc, ça comme amplifie ce qu'on entend. Et il dirige l'oreille de l'auditeur vers les sections où est l'importance, là, où est la ligne mélodique importante, où les choses à focusser. Donc, celui qui va au concert, c'est bonifié. C'est pas comme écouter la musique dans son salon. Tu sais, l'ambiance, l'acoustique, le côté imprévisible, là, parce qu'il y a toujours une magie, hein, quand on va dans un concert, c'est le moment présent, puis il peut arriver n'importe quoi. Puis, moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que il y a des secondes extrêmement magiques où il y a une espèce de chimie entre tous les musiciens et il y a une émotion qui se vit en même temps. Et ça n'a pas de prix parce que c'est la magie, tu sais, du direct, du moment présent.
C'est fascinant. Maestra La Forêt, on va te garder et à 10h05, tu vas nous parler justement d'un concert que vous préparez et qui sera à l'affiche très, très bientôt. On se revoit tantôt?
Oui, à tantôt, Jocelyne.
Merci, Marie-Josée.
Bonjour.